Le théâtre, il a sa raison d'être, et sa raison d'être, c'est celle-ci. Nous sommes tous vivants au même endroit, en même temps. En cela, le théâtre constitue pour moi un laboratoire formidable de la chose qui est plus grande que lui, c'est-à-dire de la société, de notre civilisation, du monde. Et donc, nous devons tâcher, trouver comment être vivants ensemble. Voilà pourquoi je fais du théâtre.
Parricide, incestueux, cannibale. Je veux une nuit totale, un ciel déserté par le jour.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Il est encore trentenaire, encore 4 ans, et quand on voit ce qu'il a déjà vécu avec sa passion, le théâtre, on est plutôt bouche bée. Même s'il travaille depuis plusieurs années, il obtient son premier succès fracassant en 2014, au Festival d'Avignon, avec une fresque shakespearienne, Henri VI, 18 heures, un marathon. Il paraît que certains soirs, à la fin du spectacle qui s'achève sur l'arrivée du personnage de Richard III, les spectateurs criaient au salut « Richard III ! Richard III !» réclamant de fait la suite de la fresque au jeune metteur en scène et aux acteurs de sa compagnie, la Piccola Familia. Il leur obéit, la suite vient, Richard III à l'Odéon, mais aussi l'Opéra à deux reprises et la Cour d'honneur du Palais des Papes l'été dernier à Avignon, l'ouverture du festival avec Thieste de Sénèque, encore une histoire de monstre dont il ne se lasse pas. Bonjour Thomas Joly.
Bonjour Vincent Josse.
Après tout ça, est-ce que vous avez l'impression de vivre dans un TGV?
La vie va vite, mais comme je dis souvent, moi je veux bien me tuer au travail à partir du moment où mon travail me vivifie.
Et c'est voilà. Le cas à chaque fois.
C'est le cas à chaque fois, l'équilibre est bon.
Le succès, ça oblige?
Le succès, c'est plus de travail. Enfin, le succès, la visibilité et puis le fait qu'on soit voilà très sollicité pour créer et pour jouer, c'est plus de travail en fait. J'aurais pu croire que c'était plus facile et non, ça ne l'est pas.
Pourquoi?
Parce qu'il y a plus d'attente, parce qu'il y a moins de temps pour faire descendre les inspirations, pour les lectures, des textes et des idées et de la dramaturgie. Donc il y a un empressement du temps qui d'ailleurs commence non pas à me lasser du tout, parce que je suis toujours très heureux de tout ce que je fais et je le fais tout avec grand appétit, mais peut-être qu'il est temps de, et c'est ce que j'ai fait pour le Thieste cet été à la Cour d'honneur, j'ai annulé beaucoup de choses pour pas me consacrer un petit peu plus à ce projet-là que depuis 2-3 ans où tout s'enchaînait beaucoup.
Mais vous êtes à la recherche de temps.
Je pense que ouais, j'ai envie de ça en ce moment, j'ai envie de relire, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller voir d'autres spectacles, chose que j'ai plus pu beaucoup faire depuis 2-3 ans, me nourrir un peu, parce que on donne, et à un moment il faut bien se remplir pour redonner, et voilà.
Il y a 4 spectacles de vous qui sont en train de tourner.
4
eh oui.
Eh bien oui.
Il y a Thieste,
oui.
Qui était donc à l'affiche, à l'ouverture de la Cour d'honneur, oui. Et du Festival d'Avignon cet été. Il y a Arlequin poli par l'amour, qui est une pièce que vous avez créée quand vous avez 24 ans, vous sortez d'école.
C'est ça.
C'est oui. Marivaux. Et puis il y a, on l'entendra tout à l'heure, Raphaël Lanader, la chanteuse que vous la mettez en scène.
Tout à fait.
Dans un spectacle sur Barbara.
On en parlera, oui, je la mets en scène et je joue avec elle. Et puis Fantasio.
Quand je dis 4, c'est bien plus.
Alors. En fait, c'est 5, oui.
Qui sont ces dames à nos côtés, qui sont vos invités, Thomas Joly?
Alors j'ai le grand plaisir d'avoir convié autour de cette table Annie Mercier.
Bonjour.
Qu'on a entendu.
Bonjour.
L'une des comédiennes de Thieste.
Qu'on a entendu en ouverture de l'émission, qui joue la furie dans Thieste. Et Marianne Crevassa, on parlait de Fantasio, qui interprétait le rôle de Fantasio à la création.
Bonjour madame la mezzo-soprano.
Bonjour.
Bienvenue. Je voudrais vous faire écouter, pour commencer l'émission, un témoignage. Je suis allé voir Arlequin poli par l'amour de Marivaux à la Scala Paris. Et en sortant, j'ai interrogé des spectateurs, notamment un spectateur. Il s'avère qu'il est comédien. Il a 35 ans. Il n'a jamais travaillé avec vous, mais visiblement, il en rêve, parce qu'il aime votre théâtre.
Je m'appelle Brice Hilleret, et j'aime Thomas Joly comme metteur en scène et comme acteur. J'ai l'impression qu'il fait du très ancien avec du très neuf, ou bien du très neuf avec du très ancien, je ne suis pas sûr. Il ne fait pas un jeu qui consisterait à commenter l'action en cours, il ne fait pas un jeu ultra distancé, comme voilà, tout ce qu'on a un peu l'habitude de voir aujourd'hui. Il fait... au contraire, un jeu qui plonge complètement dans l'incarnation absolue, l'incarnation criante, saignante aussi même. Et je trouve qu'il le fait avec des moyens qui sont bien les moyens d'aujourd'hui. Les sons sont très amplifiés, les voix peuvent l'être aussi. Les lumières sont très sophistiquées, très folles, très dingues. Et les costumes peuvent être aussi très criants, très cintrés, très 21e siècle. Je crois que je trouve ça très très gonflé de faire ce qu'il fait. D'oser faire un théâtre ultra populaire, beaucoup plus qu'un théâtre cérébral, ce qui n'empêche pas d'être un théâtre intelligent, au contraire, bien sûr. Et il y a une chose très très évidente quand on est acteur et qu'on assiste à une représentation de théâtre, on est un spectateur qui peut être gagné par l'envie urgente de les rejoindre sur le plateau. Et c'est exactement ce qui se passe avec les représentations que j'ai pu voir jusqu'ici de Thomas Joly.
Le jeune homme que vous avez enlevé à ses parents est un beau brun, bien fait. C'est la figure la plus charmante du monde.
Lave, bébé. Ou vide. En main, appuyez, gissez.
Voilà, ça c'est Arlequin, poli par l'amour, sont vraiment les débuts de Thomas Joly, il y a tout dedans, il y a sa fougue, il y a son amour du théâtre, il y a l'audace de monter Marivaux comme dans un cabaret, et on sentait chez ce comédien Brice Hilleret le désir de même de faire un stage avec Thomas Joly. Est-ce que c'est quelque chose de réalisable ça, de faire un stage avec vous?
Oui, j'en fais, j'ai rencontré plusieurs acteurs et plusieurs actrices au cours de stages que j'ai donné, j'en ai moins fait ces dernières années encore une fois parce que j'avais des spectacles à construire, par contre je continue quand même à donner des stages dans les écoles nationale, par exemple au TNS, où je suis artiste associé à Strasbourg.
À Strasbourg, ouais.
Voilà, avec l'école. Non, c'est très touchant. J'espère que l'idée de ce partage-là, c'est-à-dire qu'on a envie d'être dans l'histoire, de partager la scène, de partager ce moment, ça c'est une chose que j'essaye toujours de mettre en place dans le travail, de créer une petite communauté, au moins le temps d'un spectacle. Je crois que le théâtre tient avec ça, avec ce rappel-là. Il tient pour ça, même.
Il parlait, Brice Hilleret, de mélange de tradition et de modernité. C'est vrai que ça frappe, quand on voit votre travail, un côté artisanal, un côté comédia dell'arte, parfois notamment dans ce Marivaux, oui. Ce premier spectacle, et aussi de la musique qui peut être pop, qui peut être rock. On vous sent d'aujourd'hui.
Oui, il y a quelque chose qui s'est passé avec notre génération, et je pense que c'est encore pire avec celle qui arrive, encore mieux plutôt avec celle qui arrive, c'est que il y a eu une déhiérarchisation des objets, des produits de la culture. Dans ma fenêtre d'ordinateur, je peux avoir ouvert en même temps l'ABCDR de Gilles Deleuze, par exemple, tout comme le nouveau clip de Beyoncé, et puis en même temps écouter Marianne Crébassa qui chante un morceau de son album.
Et du coup, ça donne quoi sur scène et dans vos envies de mise en scène?
Eh ben, en fait, ça donne surtout la porosité, c'est-à-dire tout est poreux, tout est perméable entre les époques, entre les styles, entre les genres.
Ce qui veut dire qu'un Thomas Joly peut s'autoriser le fait de faire à la fois et du cabaret et un opéra rock, quand il monte un Shakespeare ou un Sénèque.
Oui, et puis parce que il y a, des évolutions. Comment est-ce qu'on retranspose aujourd'hui ce qui pouvait être une sensation à l'époque?
Marianne Crébassa, vous aussi, vous êtes avec votre iPad et vous avez plusieurs fenêtres ouvertes et vous avez envie que, dans votre façon d'être en scène, ça se ressente, ça?
Ah oui, totalement. J'aime pas non plus être classée dans ce que je fais, dans le métier que je fais. J'aime faire beaucoup de répertoires différents. Et pareil pour les mises en scène, j'aime beaucoup rencontrer différents types de metteurs en scène, essayer des choses, avoir des challenges sur scène. Et évidemment, là, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire quelque chose qui est très visuel, une production qui rejoint les arts du cirque, la danse, etc. Avec Thomas, on était vraiment sur... on revenait au théâtre, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'était l'idée d'incarnation, de vraiment travailler sur le texte. Et c'était la première fois que, à l'opéra, je me suis retrouvée, premier jour de répétition, à seulement lire le texte.
Thomas Joly, vous avez évoqué Beyoncé. Je sais que dans votre vie, il y a une autre femme qui s'appelle Lady Gaga.
Bah, elle est dans la vie de beaucoup. Hein. Comment faire autrement? Elle a travaillé par exemple avec Bob Wilson.
Oui.
Elle a travaillé avec Jeff Koons. Voilà comment une artiste de dance pop fait des petits pas de côté dans l'univers du contemporain, du théâtre, de la photo.
Voilà, donc si vous voulez voir et écouter Lady Gaga, vous allez au cinéma en ce moment. Star is Born, troisième remake de ce classique hollywoodien de 1937. Elle a retiré ses habits de Lady Gaga. Elle est sans phare devant la caméra. Et les voici tous les deux qui chantent Bradley Cooper, Lady Gaga.
Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow.
On écoute chanter Lady Gaga, Bradley Cooper, et en même temps, Marianne Crébassa nous parle de Lady Gaga, raconte à Thomas Joly qu'elle a vu un documentaire, et Annie Mercier ne dit rien.
Non, bah non, parce que c'est pas ma génération.
Alors qu'est-ce que vous écoutiez, vous, à leur âge, à 30 ans?
Comment il s'appelle cet extra
Léo Ferré.
Léo Ferré, oui. Voilà.
Et vous allez nous chanter cet extra?
Ah non, pas du tout, non, non.
Comment vous réagissez, Annie Mercier, quand vous entendez Marianne et Thomas dire qu'ils ont besoin de représenter ce qu'ils vivent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils voient dans leur art?
Ben évidemment, c'est pas ma manière d'être.
Et pourtant, vous travaillez, vous avez travaillé avec Thomas Joly.
Ah oui, mais parce que moi, j'ai envie d'apprendre toujours. Sinon, pourquoi je suis sur Terre, hein? J'ai envie de côtoyer, j'ai envie de fréquenter, j'ai envie justement d'être contaminé. Et donc, moi, j'ouvre grande mes oreilles, mes yeux, et quand j'entends l'extrait que vous venez de passer, je trouve ça sublime.
Lady Gaga, là?
Ah oui, ça m'ouvre des portes, ça m'ouvre des fenêtres. Moi, je suis là pour ça. Donc, je suis très heureuse de côtoyer des trentenaires.
Thomas Joly, c'est intéressant ce que dit Annie Mercier, qui a commencé sa carrière dans les années 70. Elle est volontairement poreuse, ouais, de son époque, de l'époque d'aujourd'hui.
Et c'est, à mon avis, une qualité qu'elle a et qui fait d'elle aussi une grande actrice, sa curiosité. Et quand on est au travail avec Annie, elle a de très grands yeux et elle prend, elle aspire, elle vampirise.
Sauf que quand j'ai rencontré Thomas pour la première fois, je lui ai dit, mais moi je suis une femme de texte, hein. Et il m'a dit, moi aussi.
Qu'est-ce que vous vouliez dire par là,
hein? Pas une femme, par contre. Un homme de texte.
Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que moi, le texte est très important. Il faut que je m'en imprègne, que je l'incarne. Je suis aussi pour l'incarnation. Et j'avais peur qu'il y ait des coupes, qu'on traficote le texte. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il m'a rassuré tout de suite. Et je suis ravi parce que c'est un très beau texte. Moi, j'ai un plaisir fou à jouer cette scène, à dire ces mots-là, quoi.
Que joue Annie Mercier dans Thieste, Thomas Joly?
Elle joue la furie, c'est-à-dire celle qui allume le théâtre, celle qui infecte le théâtre, infeste, bon, le théâtre,
oui,
contamine
deux,
le
oui,
théâtre. Oui. Elle appelle la tragédie et elle fait que la tragédie advient. Quand elle parle du texte, mais pour le coup, là, les générations s'en fichent. Je pense que Annie, comme moi, on est des gourmands, on est des vivants, on est des liquides, on est des
de organiques. Chair aussi.
Voilà, on est de chair. On aime le plaisir de se déployer vocalement, physiquement, le regard, les costumes. On a ce goût-là. Au fond, on peut tout à fait, moi, je veux bien jouer des choses très sobres, très avec des micros, ça, pas de souci. Mais le plaisir du jeu, la gourmandise, ça, Annie, elle l'a.
Et moi, le partage est très important. C'est vain de jouer quelque chose si le public est complètement froid et que ça ne parvient pas.
Et comment vous savez que ça parvient au public?
Ben, il suffit de voir la ferveur qu'il déclenche, par exemple, à Perpignan.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le début de la tournée,
oui,
hein, après Avignon.
Mais je lui ai dit, mais moi j'ai ressenti de l'amour. Ce qui est rare quand même. On peut avoir de l'admiration, avoir du plaisir partagé.
Ouais, je précise que vous avez joué avec Philippe Adrien beaucoup, que vous avez joué avec Jean-Pierre Vincent, avec Braunschweig, avec Christophe Honoré également.
Stanislas Nordet.
Et c'est la première fois que vous sentez une ferveur pareille?
Ben là, j'ai dit de l'amour. C'est-à-dire, c'est encore au-dessus, c'est autre chose. Les yeux du public, c'était de l'amour. Je sais pas, je l'ai dit en sortant.
Oui, je me souviens.
Je peux pas l'expliquer, je l'ai ressenti.
Marianne Crébassa, vous avez été, et vous êtes encore Fantasio, à l'origine une pièce de Musset, qui est aussi un opéra d'Offenbach. Est-ce que vous avez ressenti un rapport particulier du public au travail de Thomas Joly? Est-ce que vous avez donné en scène avec lui?
Ah oui, très très différent. Déjà parce que la pièce s'y prêtait. C'était un Offenbach qui était pas trop tralala, qui était plus dans l'émotion, qui était plus intime. Et en plus, avec les dialogues ajoutés, c'était plus direct. Moi, je parlais directement au public. Il y avait des adresses, de vraies adresses. Il y avait pas ce voile qu'on peut parfois trouver, un petit peu cette distance qu'on peut trouver avec les chanteurs d'opéra parfois, quand les salles sont grandes, avec l'orchestre, il y a quelque chose d'assez impressionnant qui fait que parfois les gens sont presque inconfortables. Et là, il y avait quelque chose de très différent aussi, l'idée de communauté. C'est vrai que le fait de travailler ensemble sur le texte, d'être tous les jours, on avait une belle équipe. Puis voilà, la magie le talent de Thomas de rassembler
On est seul parfois quand on travaille à l'opéra?
Ça dépend. On n'est jamais seul, parce que moi, j'ai pas fait ce travail pour être seul. C'est plutôt l'inverse. Et je retiens ce que dit Anne. C'est aussi la communauté. C'est avec le public, mais c'est aussi avec l'équipe. Moi, j'avais choisi ce métier parce que je faisais du piano au départ et je me trouvais très, très triste d'être toute seule à jouer sur mon piano. Et quand j'ai découvert l'opéra, et découvert ce métier-là avec les techniciens, avec une équipe qui travaille derrière, je me suis dit, mais c'est parfait, c'est génial. Ça, je trouvais ça intéressant. De construire ensemble et de pas être seul, d'avoir un soutien, même si le terme de soliste, je trouve qu'il est pas tout à fait vrai.
On est rarement tout seul, oui.
Non, on n'est pas seul à décider, on travaille ensemble. C'est pour ça que je trouve que tous les termes comme ça, diva, etc., je trouve que c'est vraiment très loin de la vérité. Et globalement, aujourd'hui, si on veut faire ce métier, ben il faut le faire ensemble, avoir une curiosité, comme tu disais. Moi, c'est ça qui me pousse aussi, c'est avoir envie d'apprendre et de m'améliorer, évoluer dans ce que je fais.
Eh bien, on va continuer de parler. Annie Mercier, je vous coupe. J'ai senti votre respiration.
Oui, parce que je voulais rajouter quelque chose, parce que moi, chez Thomas, je vois trois facettes. Il est acteur, il est metteur en scène, mais il est homme de troupe. Et ça rejoint ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il sait fédérer des talents autour de lui, et tout ça dans la bienveillance, dans l'amitié, dans la joie, le plaisir. C'est-à-dire, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous au même niveau, aussi bien les techniciens que les acteurs.
Mais vous ne connaissez pas ça à chaque spectacle?
Ah non, il y a une hiérarchie.
Des noms?
Non. Il y a une hiérarchie, il y a des gens du pouvoir, de savoir, et il y a ceux qui ont la parole, ceux qui ne l'ont pas. Chez Thomas, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un homme de troupe. À la Villard, j'imagine, j'en sais rien, je ne sais pas.
Mais on va en parler avec lui, Thomas Joly. Voilà. Ça fait plein de questions à vous poser, tout ça. Il s'est dit des choses importantes sur votre façon de travailler avec ces dames qui ne sont pas des divas. On va écouter un de vos amis, il s'appelle Bach. Et Yo-Yo Ma qui joue la suite pour violoncelle numéro 1 en sol majeur.
Très bien, parfait.
Le menuet. Thank you. C'est bien.
C'est parfait.
Vous écoutez de la musique quand vous, le matin, le soir, la nuit?
Dans le train. J'arrive pas trop à travailler dans le train, donc c'est musique. Souvent les opéras, d'ailleurs. L'image vient avec la musique. Je pense que c'est parce que ma mère m'a emmené voir Fantasia quand j'étais petit. Et c'est mon premier film au cinéma, au Disney. Mmh. Et je pense que l'idée d'une grande musique avec une grande image, et ma mère m'a même raconté que, je me souviens pas trop, moi, que j'étais terrifié, parce qu'en fait, Fantasia, c'est quand même un dessin animé horrible, avec des dinosaures, étrange, l'apocalypse, ouais. Les dieux et tout ça. Bon, et que j'étais terrorisé sur mon siège. Peut-être que quelque chose s'est fait à ce moment-là.
C'est beau cette idée. Il y a aussi un autre spectacle qui vous marque quand vous avez 3-4 ans. C'était quelque chose comme ça.
Moi, je suis le rat d'égout.
Et moi, je suis Bulle, le petit poisson noir.
Le petit poisson noir. Approche. Approche. Alors comme ça, tu veux voir la fin du ruisseau?
Oui.
Allez, en route. Mais en prenant tout droit par ici, tu trouveras facilement la sortie de l'égout. Au revoir, petit poisson noir. Au revoir, Laurent.
Qu'est-ce que c'est, Thomas Joly?
Mais c'est vraiment le petit poisson noir,
eh oui.
Le spectacle que j'ai vu quand j'avais 4 ans.
Alors je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas c'est une version du petit poisson noir. Vous avez quel âge et vous êtes où quand vous voyez ça?
À Rouen. Dans un théâtre pour enfants dont je ne saurais vous dire le nom, je sais plus le
c'est
nom.
C'est pas grave.
Je suis avec d'autres enfants. Ma mère m'emmène ici et me laisse là.
Vous avez 4 ans, 5 ans?
Ouais, 4, 5 ans. Et c'est un théâtre d'ombre. C'est un tout petit castelet avec des choses en ombre, des poissons. Il fallait qu'il échappe, je crois, je sais plus quoi. Enfin, et ben c'est très, très émouvant parce qu'effectivement, je pense qu'aussi quelque chose s'est fait ici.
Tout s'est joué à 5 ans chez Thomas Joly.
Bah non, mais il y a quelque chose, c'est vrai, je suis content de mon souvenir, de l'émotion que c'est de voir un spectacle de théâtre qui n'est pas la même chose qu'un film ou qu'un dessin animé à la télé ou qu'un jeu vidéo, quoi. C'est que tout à coup, on parlait de communauté, on parlait aussi d'histoire. Enfin, comment est-ce qu'on nous raconte encore une histoire à nous, C'est quand même... Non mais réfléchissons deux secondes à ce miracle. Que depuis 2500 ans, des êtres vivants, de chair et d'os, des grands, des petits, se rassemblent dans le noir pour écouter des histoires que leur racontent d'autres êtres vivants.
Ça vous fascine, l'idée qu'on soit ensemble. Hein, c'est un terme que vous employez beaucoup.
Ben oui, ça me fascine parce que je me dis... Ça peut pas être simplement un divertissement ou un plaisir, un loisir. C'est forcément quelque chose de l'ordre du besoin. D'ailleurs, l'enfant, tout petit, a besoin qu'on lui raconte des histoires. C'est donc certainement que notre cerveau, il faudrait que la neuroscience, d'ailleurs je sais qu'elle se penche là-dessus, mais certainement il y a des réponses là-dedans. Notre cerveau a besoin d'imaginer, de se représenter, de se laisser guider par une voix. La voix de notre mère ou notre père qui nous raconte une histoire, ou des acteurs, il y a quelque chose de cet ordre-là, à mon avis.
Annie Mercier est une petite bretonne, à l'origine. Son père est menuisier, et parmi les meubles qu'il construit, il y a des cercueils. Et avec ses copains bretons, que fait Annie Mercier? Elle va s'inventer des histoires dans les cercueils. Je raconte une bêtise ou c'est la réalité?
Ah non, je m'inventais pas des histoires, c'est mon père qui était très farceur, et qui demandait à mes copains s'ils voulaient un peu l'aider. Alors les copains, oh ben oui, monsieur Mercier, pas de problème. Donc venez à l'atelier. Alors voilà, je ne sais pas, je voudrais que le mort soit confortable. Est-ce que vous pouvez essayer le cercueil? Et donc les garçons s'allongeaient et ils demandaient, est-ce que vous voulez un peu plus de mousselin, un peu plus de soie, je sais pas quoi. Et il allait même jusqu'à leur dire, je vais fermer le couvercle et vous allez me dire si vraiment vous êtes très très bien. Parce que je suis à votre service. Et donc les garçons obtempéraient, parce que mon père était assez impressionnant, et il était surtout très sérieux, quoi. Il y avait juste ses petits yeux qui plissaient, qui riaient.
C'était malicieux, ce père.
Il était très malicieux, mais il frappait les trois coups, il racontait les histoires.
Donc le début et la vocation de théâtre de la comédienne Annie Mercier commencent là.
Bah, c'est-à-dire oui, parce que quand que j'étais petite et que je racontais des histoires qui n'en finissaient pas, il me mettait sur la table. Donc là, j'étais...
Sur une scène.
Voilà. Et à hauteur. Ouais. Et donc, moi, je racontais sans arrêt la même chose. Hein. Le petit bonhomme en chocolat, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et mon père me regardait, il était très ravi. Et il racontait toutes les légendes bretonnes, il frappait les trois coups, il faisait toutes les voix. Ah. Il racontait même sa guerre, 39-45. Il faisait les blessés et tout ça, et tout. Il aimait raconter des histoires.
Marianne, vous avez autant d'anecdotes à nous raconter
sur
votre
vocation. Si on faisait chanter sur les tables, moi.
C'est vrai?
Oui, j'ai des vidéos où je salue même à la fin.
Ah, vous saluez?
Mes sœurs se moquent de moi à chaque fois. Avec la main sur le côté, et puis je salue avec la grosse couette comme ça. Et je disais salut en même temps.
Salut! Que ce soit bien clair.
Et ça ne finissait jamais. Une fois que j'étais lancée, c'était ça. Et j'ai une maman aussi qui me racontait beaucoup d'histoires et des histoires qu'elle inventait un peu comme ça. Et pareil, qui faisait toutes les voix. Donc j'imagine que c'est pas pour rien que je suis là.
Pourtant, on vous met au piano et vous avez failli devenir pianiste.
Non. Je pense que je serais jamais devenue pianiste. C'était un désir de ma mère qui avait voulu apprendre le piano, qui n'avait pas pu et qui avait mis une condition. Elle a dit à mon père, voilà, si on fait un enfant, je veux qu'elle puisse faire de la musique. Et mon père a dit, ah ben moi aussi. Donc voilà, c'était déjà, on m'a pas forcé, hein, on m'a demandé. Et puis ma mère a vu très vite, on écoutait beaucoup de musique à la maison. Elle m'a demandé, et puis moi ça me plaisait beaucoup. Et parce qu'apparemment déjà, je passais mon temps à inventer des histoires aussi avec des petits sujets et à chanter en même temps.
Donc il y a quand même quelque chose, enfin quand même, sur cet amour, enfin ce besoin qu'on a d'entendre ou de raconter, mais d'entendre aussi des histoires. Mm-hmm. Moi je me dis, alors c'est peut-être mythique, je sais pas si cette théorie est valide, mais je me dis que les hommes préhistoriques et les femmes préhistoriques dans les grottes allumaient un feu, que ce feu était le projecteur et qu'ils racontaient leur journée de cueillette ou de chasse en faisant des dessins sur les murs et tout ça, et que c'était les premiers spectacles, c'était ça. Tu disais, Annie, par exemple, que ton père racontait la guerre ou racontait les légendes bretonnes. C'est bien, donc on prend...
À la veillée autour du feu,
voilà, comprendre notre matériau intime, personnel, notre histoire. Le théâtre, finalement, on écrit des textes, bien sûr, on met de la musique, de la lumière, des costumes. Comment dire, on fait du papier cadeau de cette chose, finalement, cette essence, cet ADN-là, qui est se faire raconter une histoire. Ça me fascine que des gens viennent s'asseoir, oui. Et c'est aussi pour ça qu'en tant que metteur en scène, je ne peux pas nier ça. Pour moi, c'est un miracle que des gens consacrent et du temps et de l'argent, parce que ça ne va pas forcément de soi, de se payer un billet de théâtre. Mais quand ils sont là, alors je leur dois quelque chose. Il consacre du temps et de l'argent pour venir voir un texte de Marivaux, de Sénèque, un opéra d'Offenbach. Je dois leur donner, leur rendre ça.
C'est-à-dire, je leur dois un spectacle.
Je le dois leur rendre, voilà.
Moi, je peux intervenir sur l'histoire de la parole et tout ça. Moi, à chaque fois que j'entends des gens parler, moi, ça met de l'ordre dans mon chaos. Je sais pas comment expliquer. Ça me relie au passé, au présent, à l'avenir. Donc, j'ai l'impression que c'est ça aussi, dans cette espèce de tourbillon de vie, se poser pour entendre une parole, c'est aussi mettre un sens.
Vous parlez comme le plasticien Pierre Soulages, que j'ai interrogé un jour et qui m'a dit, si je suis artiste, c'est que j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mon désordre.
Ben moi aussi, je trouve.
Il y a un côté Pierre Soulages chez Annie Mercier.
Bon, très bien, Pierre Soulages.
Moi, je trouve ça très beau, l'histoire du père Dan qui raconte la guerre aux enfants. Parce que je trouve que c'est souvent des choses dans les familles dont on ne parle pas.
On ne parle pas.
Et est-ce que c'est pas ça aussi, finalement ? C'est au théâtre ou à l'opéra ou sur scène, arriver à parler de choses que les gens n'arrivent pas à parler.
Peut-être aussi, oui.
C'est quand même fou, en ce moment, de savoir que Thieste ou un frère tue son jumeau, et lui fait manger ses enfants. Le frère, c'est Attrait, incarné par Thomas Joly. Et de savoir que les spectateurs vous donnent de l'amour à la fin, alors que vous avez montré la pire des tragédies. C'est fou, non ?
Ouais, c'est fou. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est que, comme je disais, je rends cette pièce. En même temps que le spectacle se déroule, j'essaye de mettre en place cette communauté éphémère dont parlait Anis, dans le même lieu, dans ce théâtre. 1000 personnes ou 2000, j'en sais rien, comme à la cour. Et nous, quoi, on est 50 avec les techniciens sur le plateau. Voilà, donc 1050 personnes réunies pour une histoire. Et cette histoire, je ne présuppose pas, moi, mieux la comprendre ou mieux l'interpréter que n'importe qui d'autre dans la salle. Je ne suis pas un metteur en scène qui dit quoi penser. D'ailleurs, je pense que le théâtre est politique à partir du moment où il dit penser, mais pas penser ceci ou penser cela. Ce qui, moi, me dérange, en fait, dans les gestes de mise en scène. Non, je ne recontextualise pas Thieste dans un contexte aujourd'hui contemporain. Bachar el-Assad qui tue son peuple, par exemple.
Non, chez vous, la Shoah, ça n'est jamais déterminé l'époque.
Non, jamais. Parce que je crois que les spectateurs aussi ne sont pas dévots. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre capacité de discernement, de réception, de discernement en fonction de ses obsessions. Sur Thieste, par exemple, il y a une spectatrice qui est venue me voir en me disant « Moi, ça m'a fait réfléchir sur l'industrie pharmaceutique. » Okay. Et bien, pourquoi pas ? Et bien, très bien. Si c'est votre obsession et que Sénèque vous parle de ça aujourd'hui, merveilleux. L'écologie, en ce moment, le désastre écologique dans lequel on est lancé, nous effraie. Enfin, en tout cas, on sent une vraie importance de ce sujet en ce moment. Et dans Thieste, il est dit à un moment donné que la génération des pères ont lancé le monde dans sa chute et que les enfants disent à un moment donné, c'est donc nous qui fûmes choisis pour être témoins de la fin du monde. Et peut-être que c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui pour les générations à venir, peut-être la nôtre même déjà. Donc ça, par exemple, l'écologie, super, mais si j'avais mis Thieste dans un contexte, j'en sais rien moi, Poutine, Bachar el-Assad, pour faire les deux jumeaux, j'en sais, bref, ou un contexte on va dire plus concret de deux frères dans la campagne pour un fait divers, je sais pas, une chose, on n'aurait pas accès à tout ça. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait que les spectateurs en fait sont responsables devant mes spectacles, ils sont responsables de ce qu'ils reçoivent et du traitement qu'ils en font. C'est pas moi qui dicte.
Le Grand Atelier, Vincent Josse sur France Inter.
Won't give you my heart, wanna tell you my story. Gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word, let me give you my promise. I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true,
Only when we understand everything in life is planned, can we make this dream come true. Tell you my story, gonna take it to another level, you and me, hand in hand, walking through life and making our plans, hand in hand, hand in hand.
Paul McCartney, c'est son dernier disque et le titre c'est Hand in Hand. Paul McCartney, c'est un de vos chouchous, Annie Mercier ?
Bah, disons que oui, c'est un peu mon époque, donc ça faisait partie de l'environnement, quoi, si vous voulez. Moi, je suis quand même très souvent un peu couat, hein, quand je les entends, les trentenaires, parce que d'abord, je suis nul en technologie, donc entre Instagram, je sais pas quoi, WhatsApp, je sais pas quoi, tout ça.
Bon, WhatsApp,
voilà, j'escamote en plus les mots, c'est presque volontaire d'ailleurs.
Vous n'êtes pas sur Instagram, vous ?
Ah non, non, mais je suis pas sur Facebook. Facebook, enfin, de temps en temps je regarde ça, c'est une banalisation du mot, enfin voilà, c'est dangereux, moi je trouve.
Et ça permet aussi de dire du bien ou du mal des spectacles de Thomas Joly.
Oui, mais de quelle manière ?
La question est posée. Je voudrais qu'on parle d'un homme que vous connaissez, vous avez travaillé avec lui tous les deux, Annie Mercier et Thomas Joly, je pense pas encore Marianne Crébassa, c'est Stanislas Nordet.
Ah.
Vous découvrez son théâtre quand vous avez 15 ans, ouais. Vous voyez la dispute de Marivaux montée par Nordet et vous êtes scotché. Il va être votre professeur, l'un de vos professeurs au Théâtre National de Bretagne quand vous apprenez à jouer, et il dirige aujourd'hui le Théâtre National de Strasbourg qui fête ses 50 ans, le TNS, où il fait entendre des auteurs contemporains, où il enseigne. Vous êtes d'ailleurs en résidence là-bas, Thomas Joly, et Vinciane Lomonier est allée le rencontrer, Nordet, dans son lieu. Elle lui a demandé une petite visite guidée.
Alors là, c'est en fait, on est dans le hall du théâtre, et donc il y a une exposition de toutes les photos de ce qu'on appelle les artistes associés. Il y a 20 artistes associés au TNS, des auteurs, des metteurs en scène, des acteurs. Alors dans les metteurs en scène, il y a Thomas.
Thomas Joly, photo en noir et blanc, la main gauche levée vers l'arrière, avec un rayon qui sort de lui. On dirait presque un chef d'orchestre.
C'est un peu ça, Thomas. D'ailleurs, il a cette boulimie de faire de l'opéra, de faire du théâtre, de jouer, de mettre en scène, d'enseigner. Contrairement à ce qu'on peut penser parfois quand on ne voit que l'écume des choses, il n'est pas né du jour au lendemain par le Henri VI. Le moment où il est révélé, ça fait des années qu'il travaille déjà. On oublie ça, que derrière il y a un vrai travail de compagnie. Donc c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il est aussi structuré, c'est-à-dire que il a les pieds sur terre parce qu'il n'a brûlé aucune étape.
Ça fait longtemps, vous le connaissez, parce que à Rennes déjà, il était dans vos petits papiers.
Ben je l'ai vu naître un petit peu au théâtre, on va dire. C'est-à-dire que quand Thomas est arrivé au TNB, à l'école du TNB à Rennes, ben il était un des plus brillants de sa promotion. Et puis il faisait déjà de la mise en scène tout le temps. Et Thomas a monté un texte de Jean-Luc Lagarce qui s'appelle La photographie avec ses camarades. C'était brillantissime. Très vite, je l'ai encouragé là-dessus. D'ailleurs, à l'époque, je pense qu'il m'en voulait un peu parce que je voyais plus en lui une promesse comme metteur en scène que comme acteur. Et aussi, très vite, j'ai vu que c'était quelqu'un, et je le pousse à ça aujourd'hui, qui avait un vrai regard sur le théâtre public et qui pourrait être un des directeurs des grands théâtres publics dans les années à venir.
Et en quoi est-ce que ça consiste, sa résidence, ici ?
D'être là le plus souvent possible, aussi bien à l'école que dans la programmation.
On continue ?
Ouais.
Donc là, c'est bureau des élèves.
Ça, c'est chez les élèves. Là, c'est Juliette, jeune dramaturge.
Qui veut y aller ?
Moi, je veux y aller.
On est le seul théâtre national en région. Et on est le seul théâtre national qui a une école en son sein. On a toujours 50 étudiants dans les murs. Des jeunes metteurs en scène, des jeunes dramaturges, des jeunes scénographes, des jeunes éclairagistes et des jeunes acteurs.
Qui veut me défier ? Je demande, qui veut me défier ?
Dis-le, mais mets-toi presque dans l'état où t'étais quand tu l'as écrit, tu vois ? Mais ne pompez pas les états.
Arrête de penser.
Tout au long de l'année, les jeunes gens croisent tous les artistes qui répètent, qui jouent, etc. Ce qui leur donne un bonus incroyable. Et donc, on a quatre salles de travail ici. Sort du TNS souvent des troupes constituées, puisqu'ils se sont rencontrés ici, les différents corps de métier. Ça essaime toute la France. Donc ici, c'est les magnifiques ateliers costumes du TNS. C'est Elisabeth qui dirige.
Et là, ça travaille sur quoi ?
I Am Europe, qui est le prochain spectacle de Falk Richter. Donc là, on a une belle robe qui est en train de se construire. Les costumes de Thiest, on les a faits ici.
Et les maquettes, elles sont là.
J'ai vu le fameux costume jaune, là, derrière.
Ouais.
Thomas, on a vu partout.
Il était au départ rouge et il est devenu jaune après.
Rouge devenu jaune après.
Ouais.
Et vous avez passé combien de temps ?
On a commencé en avril et on a livré en juin.
Merci, ça, Elisabeth.
D'ailleurs, on a hâte de le voir sur le plateau.
Eh oui.
Parce qu'on n'a pas vu à Avignon. Donc,
Ça vient en décembre. On va rentrer dans la salle Coltès, qui est notre grande salle.
Côté jardin.
J'ai encore dans la tête ces horribles cris quand ils ont forcé le globe hier, quand cela a pris feu tout à coup.
Alors vous êtes en répétition actuellement sur un spectacle de Claudel.
Paul Claudel, le partage de midi, mis en scène par Éric Vignier.
Et vous jouez.
Et je joue le rôle de Méza, un des grands personnages claudéliens, déchiré entre son amour pour Dieu et son amour pour une femme, et ça n'est pas compatible, et c'est tout le sujet de la pièce.
Mon recrutement marchait fameusement. Mais adios.
Ce qui est important pour moi, je trouve que c'est des métiers où on peut très vite s'endormir. Pour moi, changer tout le temps de casquette, être l'après-midi acteur, le soir directeur, le matin metteur en scène, faire de l'opéra, du théâtre, enseigner, c'est une manière de rester vivant et de se mettre en danger tout le temps. On n'est pas tant que ça, avoir toutes ces casquettes-là. Quand on est acteur, on n'a pas les mêmes sensations que quand on est metteur en scène, quand on est directeur ou quand on est pédagogue. Donc ça permet d'embrasser, on va dire, tout le spectre de ce qu'est le théâtre. C'est formidable.
Tu ne me laisseras pas prendre vivant. Ils ne vont pas venir ici.
Rien à craindre, je te dis, ils ont été trop bien reçus l'autre jour.
Voilà le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, un lieu important pour la création contemporaine. Et puis Nordet, alors Nordet c'est drôle parce que on dit que vous avez eu une relation orageuse quand vous étiez étudiant avec lui. C'était quoi ? C'était l'idée de tuer le père un peu ou de vous faire entendre ?
Vous voyez, on peut dire ça, mais ça c'est un petit peu romancé. Non, j'avais une très très grande fascination. Moi je voulais pas faire d'école nationale autre que celle où il était directeur. J'ai vu trois spectacles qu'il a fait, je voulais aller au TNB pour rencontrer Stanislas Nordet, travailler sur du texte contemporain. C'était le but. Ce qui s'est passé, j'ai eu de la chance, parce que c'était un gros concours, on était 1200 candidats, enfin un gros machin, et puis je me trouve dans la promotion numéro 5 du TNB. Et pendant 3 ans, c'est ça sa grande pédagogie, parce qu'aujourd'hui je le comprends, l'école du TNB telle qu'il la pensait est une école qui désapprend plutôt qu'elle n'apprend. Elle nous demande de partir en quête de soi-même, qui on est, quelle est notre singularité, comment est-ce qu'on s'approprie des textes et comment on a le courage de l'honnêteté de soi. C'est une qualité importante pour les acteurs. Enfin, je crois que c'est la plus grande même qualité pour les acteurs et les interprètes, d'avoir le courage de l'honnêteté de soi. Et ça, il me l'a appris. Mais pour comprendre ça, j'ai mis du temps. Parce que, cette petite anecdote où il me dit à la fin des 3 années, dernière heure de la dernière année, des 3 ans d'école, où il me dit, Thomas, par exemple, tu es là depuis 3 ans, je ne sais pas qui tu es. Et moi, ça m'a détruit. Enfin, ça m'a mis très en colère. Parce que j'avais vraiment essayé de jouer le jeu de ça. Et je pense que cette colère a été salvatrice, puisque c'est grâce à ça aussi que en sortant immédiatement, j'ai dit très bien, moi je ne vais pas partir travailler avec des metteurs en scène ou quoi, je vais inventer une histoire de compagnie avec des jeunes gens, enfin des camarades de mon âge, et on va s'installer en Normandie, on va travailler depuis, c'est ce qu'on fait depuis 2006, sur le territoire. pour être une compagnie, travailler ensemble en groupe.
La Piccola Familia. Vous n'y appartenez pas, Marianne Crépassa, parce que vous chantez. Vous êtes une chanteuse lyrique qui aime aussi d'ailleurs chanter du jazz. Je ne vais pas vous faire chanter, je vous promets. Mais j'aimerais que vous nous racontiez le travail que vous avez fait sur la scène avec Thomas Joly. Ce travail a commencé par la lecture et presque l'étude du texte, qui n'est pas toujours le cas, vous nous disiez. Mais ensuite, comment il est avec des chanteurs lyriques? Comment il vous dirige? Il y a des vidéos où on voit Thomas Joly très près des comédiens ou des chanteurs.
Oui, oui, très très proche, et puis dans un travail qui peut être... Moi j'aime travailler de manière intime, j'aime beaucoup ce moment où on est seul avec le metteur en scène, où il n'y a pas trop de monde dans la salle, et c'est le moment où on peut chercher, expérimenter, se sentir aussi sécurisé. Et souvent à l'opéra, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens autour, beaucoup de gens. Et j'ai beaucoup aimé ces moments qu'on pouvait avoir ensemble, voilà, de proximité, de revenir au texte chaque jour, d'avoir au moins une lecture. Et puis il est évidemment très précis sur tout ce qui est la psychologie du personnage, d'où on vient et jusqu'où on va, le chemin, les relations entre, juste l'interaction entre deux acteurs, deux chanteurs ici. Je me souviens qu'on a passé beaucoup de temps à travailler avec le rôle féminin qui, et donc à essayer de trouver une dynamique entre nous qui fonctionne.
Oui, parce que je rappelle que vous jouez un homme fantasio. Hein.
Voilà, exactement. Et puis d'arriver à trouver ça aussi bien dans les textes parlés que dans les textes chantés. Et puis de trouver ma voix en dehors du chant. Ça, c'était important pour moi. Et là-dessus, Thomas m'a vraiment... J'ai senti un vrai accompagnement. J'ai senti qu'il y avait de la bienveillance, que je pouvais essayer, je pouvais me tromper, qu'il y avait, ça a été assez libérateur. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais refaire. Je suis contente qu'on ait des possibilités de reprendre ce spectacle aussi. Et voilà, donc globalement, oui, l'esprit de troupe, de travailler ensemble, et comme disait Annie tout à l'heure, pas d'hiérarchie. C'est-à-dire qu'on peut ouvertement parler avec Thomas, lui poser des questions, être voilà, c'est vraiment. Une manière de travailler qui est vraiment dans ce qui est essentiel, dans ce qui est important, dans le texte, l'émotion. Et c'est vrai que parfois, avec tout ce qu'on a à faire en dehors du texte et de ça, de ce qui fait l'émotion du personnage, l'émotion du moment, à l'opéra, on peut se perdre parfois avec tout ce qu'on a à faire autour de la mise en place, du rythme qui est imposé aussi par la musique.
C'est ce que j'allais dire, parce que je me souviens, le grand défi de Marianne et de toute l'équipe de Fantasio, c'est que j'avais réinjecté dans le livret de l'opéra Fantasio des vrais morceaux de texte de la pièce de Musset.
Oui.
Parce que le livret fait par le frère d'Alfred, Paul, était un peu pauvre. C'était un peu, voilà, comme d'habitude, un livret un peu prétexte à enchaîner des chants, des airs. Et moi, je me suis dit, bah non, on remet la langue d'Alfred. On la remet, enfin voilà, formidable. Sauf que ça voulait dire qu'il y avait des scènes parfois de 5, 6, 7 minutes sans musique, parce qu'on est dans un opéra comique qui alterne le parler et le chanter. Où d'un coup, les chanteurs se retrouvent, et c'est ce que tu m'as dit très rapidement, sans filet. C'est-à-dire que le vide, le silence pour un chanteur, c'est quand même de la voltige pour le coup. Comment est-ce qu'on travaille avec ces interprètes-là qui ont tout le temps un tempo imposé, une métrique, qui sont dans des voilà une grille très précise, et avec un chef en face qui, moi évidemment en tant que metteur en scène, je ne fais pas de gestes pour qu'il parle. Ça s'appelle de la pensée. Et d'ailleurs, je crois que ce qui moi m'avait complètement fasciné et qui continue de me fasciner à l'opéra, surtout sur un texte français parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux, c'est que, en fait, que ça chante ou que ça parle, finalement, ça pense. Donc on pense en chantant ou on pense en parlant. C'est de la pensée à voix haute, même si elle est écrite, cette pensée. Moi, j'ai souvent dit que théâtre et opéra, c'était le travail inverse. C'est-à-dire qu'à l'opéra, tout est écrit. Les rythmes, les pauses, les tempos, les hauteurs de voix, de notes, etc. Tout est écrit, mais pourquoi c'est écrit comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire que cette pensée-là, pourquoi cette pensée a été traduite musicalement comme ça? Alors qu'au théâtre, on n'a rien, les mots. Et à nous de construire la musique de la pensée, les temps, les pauses, les tempos, etc. Du coup, pour les artistes, enfin Marianne, c'est le travail qu'on a fait ensemble, c'était vraiment... j'arrête pas de faire ça avec mes bras.
Comme une balance.
Ouais, comme une balance. C'est-à-dire qu'au théâtre, il n'y a rien, on doit tout construire. À l'opéra, tout est construit. Il faut qu'on comprenne
faut
comment
déconstruire. C'est construit.
Faut déconstruire. Ouais,
voilà. Ça a vraiment eu un impact, moi, sur mon interprétation dans les rôles. Ça a été le début d'une remise en question aussi, un peu de ce qui est écrit, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, après, j'ai rencontré aussi, ça s'est fait un peu comme ça, de gens qui m'ont permis de, par exemple, de prendre du temps, de faire des silences, faire vivre le texte et la musique différemment sans avoir l'impression d'être coincé par ce qui est écrit, mais plus parce que j'ai le cadre, j'arrive à trouver cette liberté au milieu, dans ces limites-là. et de prendre plus de temps dans les silences, plus de pauses, faire vivre les silences. Et ça a vraiment changé dans ma manière de chanter, d'interpréter.
Vous avez bien fait de vous rencontrer tous les deux.
Oui.
D'ailleurs, quand j'ai vu Marianne Crébassin dans Fantasio, j'ai été frappé par le timbre, la beauté du timbre de Marianne Crébassin, bien sûr, mais aussi par son talent de comédienne.
D'actrice.
C'est un peu banal de dire ça, mais je voyais une actrice en scène.
Mais Marianne est une artiste, parce qu'elle est chanteuse, mais elle est aussi actrice, une artiste qui aime les risques. Là, en ce moment, par exemple, elle travaille sur Orphée et Eurydice, mis en scène par Aurélien Bory, bientôt à l'Opéra Comique.
Vous êtes Orphée ou Eurydice?
Orphée.
Elle est Orphée et elle fait du cirque. Elle aime, je pense, comme d'ailleurs Annie le disait, c'est le renouvel, d'être bouleversé, d'être renouvelé, d'être déplacé. Moi aussi, c'est la même chose d'ailleurs. Et Marianne prend tous les risques de ça. Parler, ça a l'air de rien, mais pour un chanteur, une chanteuse, c'est pas rien. Et puis après, là, chanter, alors je sais pas ce qu'elle fait, j'ai hâte de voir le spectacle, je l'ai pas encore vu. Mais chanter la tête à l'envers, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Dans Fantasio, moi, j'ai osé quelque chose, je l'ai fait monter en l'air sur, un espèce de trapèze, et elle chantait la balade à la lune, elle finissait dans le ciel avec la lune. Bon. Et pas de souci. Tester, expérimentons, faisons-le, quoi. Et cette capacité d'accueil des propositions et aussi d'invention, parce qu'elle s'en saisit tout de suite, ça, c'est des grandes qualités d'interprète.
Et si on l'écoutait chanter, Marianne?
Ah ben alors, allons-y.
Le dernier disque, c'est un disque avec le grand pianiste turc Fazil Say. Il s'appelle Secret. Quel secret on pourrait dévoiler cet après-midi?
Quel secret on pourrait dévoiler L'Indifférent dans Scheherazade ou Le Tombeau des Naïades dans les Bilitis de Debussy. Je vous laisse choisir.
Marianne Crébassin, je crois qu'Annie Mercier découvre votre voix chantée.
Oui.
Alors,
je me dis quelle puissance, quelle qualité de son, de ton, et puis aussi le grand panel, quoi, dans un corps aussi frêle.
Et quelle capacité d'interprétation, puisque là, c'est Scheherazade, donc. C'est pas Fantasio, et d'un coup la voix, elle est ailleurs. Enfin, c'est la même très belle voix qu'on connaît de Marianne, mais voilà, elle se fond dans, j'imagine, bah, le texte, le rôle.
L'interprétation.
Tout à fait, oui. Et puis dans un compositeur différent, donc une écriture différente, des besoins différents vocalement.
Thomas Joly, il va falloir remercier vos invités.
Mais merci infiniment d'avoir été avec moi.
Merci
avec
à toi.
Bah, merci.
À bientôt, Annie Mercier et Marianne Crébassin. On se retrouve, Thomas Joly, dans quelques minutes après les infos.
Allez. Je pense que le théâtre, c'est du spectacle vivant. Alors, bien sûr, il y a du spectacle, de la machinerie, du spectaculaire. Et puis, la question du vivant, pour moi, elle est à préserver. J'essaye, en fait, de faire résonner les mots d'un auteur, ces mots qui sont immuables, avec cette matière vivante, mouvante, que sont les acteurs, dont moi-même. Pour qu'il y ait, en fait, théâtre, il faut que la matière morte et la matière vivante se connectent.
Les morts et les vivants ensemble, et ben oui, c'est ça le théâtre, entre autres. Deuxième heure en compagnie d'un acteur et d'un metteur en scène, patron d'une compagnie, la Piccola Familia, c'est Thomas Joly. Très présent dans les théâtres cette saison, j'allais dire comme d'habitude. C'est vrai que ça devient une habitude, même si vous n'avez que 36 ans.
Ah, que 36 ans. C'est vrai que là, c'est une belle rentrée, puisqu'il y a Arlequin à Paris, il y a Thieste en tournée un peu partout. Moi, je m'habitue de rien, vraiment jamais. Non mais vraiment, c'est-à-dire que chaque année... Il y a une géographie nouvelle, des villes nouvelles, des lieux nouveaux. Enfin, moi, je me sens pas du tout dans une routine.
M'avez dit un jour, je connais très bien la France à force de tourner partout.
Bah attendez, moi j'ai quand même la grande chance de pouvoir accompagner un spectacle Arlequin, par exemple, à Port-de-Bouc, à Saint-Valery-en-Caux, dans des villes plus grandes comme Vannes, ou là on revient de Perpignan. Je pars à Saint-Étienne bientôt. Donc ouais, c'est un métier de voyage, mais je suis pas le seul à le penser, puisque tous nos invités pourraient en témoigner.
Alors vos invités, justement. C'est votre carte blanche, le grand atelier.
Non, mais merci, le grand atelier.
Il y a vos invités. Alors, à ma gauche, en face de vous, donc, une chorégraphe.
Ouais, chorégraphe, danseuse, directrice du Centre chorégraphique d'Orléans, Maud Le Pladec.
Bonjour, bienvenue.
Merci.
Vous dites que vous êtes jet-lagué?
Oui, je suis. Bah, on parle de voyage. Voilà, je reviens tout juste de tourner entre Philadelphie et New York.
C'est vachement plus glamour que Port-de-Bouc et Saint-Valery-en-Caux.
Oui,
mais pas mieux. Ça claque plus à la radio.
Et Thomas le disait très bien, moi j'aime beaucoup ce grand écart entre New York et Courtrai. New York et encore Courtrai étant une ville plutôt grande, mais je sais pas, New York et Armentières par exemple, New York et Trégueux, New York et Redon, voilà.
Jamais autant parler de villages et de villes de France.
Enfin, moi, c'est une grande chance que je trouve de nos métiers. Moi, j'y serais jamais allé à Port-de-Bouc, je pense. Et pourtant, il y a un théâtre là-bas, avec une très belle équipe, qui font des très belles choses. Et
En face de vous?
Et juste à côté, il y a Raphaël Lanader, aussi connu sous le nom de Elle,
bonjour,
la chanteuse.
Bonjour.
Qui vit en Bretagne maintenant?
Presque. J'attends que les travaux se terminent.
Vous quittez Paris pour la Bretagne,
absolument,
c'est ça?
Absolument. Bravo.
Besoin de quoi?
De vie.
et d'océan.
Et d'arbres, de plantes, d'animaux, de vie.
On va parler de tout ça avec vous deux, mesdames.
Et puis, j'ai une anecdote parce qu'on a failli quand même, à cause des animaux.
Thomas Joly.
Raphaël et moi, on a travaillé ensemble. On va vous raconter ça si vous voulez. Mais donc, on était en voiture tous les deux et il y avait un petit veau sur le bord de la route. Et Raphaël était tellement heureuse de voir ce petit veau qu'on a quand même failli finir dans le décor, très clairement. Et que le petit veau était notre petit rendez-vous du matin, effectivement. Ouais.
Dieu, garde le roi Henri, sixième du nom.
Messieurs, bien-aimés spectateurs, en espérant que vous vous soyez dégourdis et sustentés à votre guise, et avant que nous ne reprenions le cours de notre histoire, je me dois de vous remercier, car non content d'avoir déjà enduré 4 heures de notre épopée, vous êtes revenus pour en reprendre 13.
Voilà, je voulais qu'on entende, après Miossec, un extrait de cette fresque de combien d'heures déjà, Henri VI?
18.
Voilà, il y avait cette comédienne exceptionnelle et exceptionnellement drôle qui nous avertissait de ce qui nous attendait, ouais. Qui jouait un peu le cœur d'une oui. certaine manière. Et ça, c'est une trouvaille fabuleuse. C'est-à-dire qu'on peut aussi accompagner les gens avec de l'humour et rajouter du texte pour permettre aux spectateurs de revenir ensuite,
oui,
après les entractes.
Et puis de revenir et puis de s'y retrouver dans cette histoire complexe. Hein. On va pas se mentir, la guerre de 100 ans, ça fait saigner du nez à tout le monde. voilà. Et puis, c'était aussi très inspiré de ce que faisait lui-même Shakespeare dans Henri V. Et le prologue d'Henri V où il dit « Mesdames et messieurs, bonjour », enfin en substance, hein, il le dit bien mieux que moi, mais voilà, vous allez voir des guerres alors qu'on sait pas se battre, qu'on n'a pas d'épée, qu'on n'a pas de chevaux, qu'on est 10, qu'il faudrait nous penser 10 000, enfin voilà. C'était vraiment une réécriture, en gros, de ce prologue shakespearien d'Henri V.
On sent que vous aimez nous prendre par la main d'une certaine manière, oui. c'est-à-dire de ne pas avoir peur de faire parfois de la pédagogie oui. pour qu'on ne soit pas exclu de ce qui se passe. Vous prenez soin du spectateur.
Oui, j'en prends soin et puis j'essaye aussi de prendre soin du fait que moi, je me suis baigné dans la guerre de 100 ans et la guerre des deux roses pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour monter ce spectacle, mais que bien sûr, personne n'est censé connaître ça sur le bout des doigts, enfin peu connaissent ça sur le bout des doigts. Moi, je présuppose en fait aucune connaissance comme Shakespeare. C'est Shakespeare qui m'a appris ça, qui ne présupposait lui-même aucune connaissance d'un sujet dans chez ses spectateurs. Donc, ben, tout est dit par la scène. Ça ne veut pas forcément dire qu'on met du fluo et puis qu'on met des panneaux forcément avec des flèches pour indiquer des choses, même si des fois on fait ça. Mais c'est aussi d'essayer de faire un geste clair, dans une clarté du geste de mise en scène et de jeu pour les acteurs aussi. Ça demande aux acteurs d'être des savants de leur sujet. Quand je disais tout à l'heure que quand un spectateur était assis dans une salle que je trouvais miraculeux et que je lui rendais le spectacle, mon travail c'est de, entre le moment où il peut le lire chez lui et le moment où il s'assoit dans une salle où il y a un spectacle à moi devant, eh bien il faut que ce soit la même réception, mais en 3D.
En 3D, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y a souvent un aspect grand spectacle quand on va voir vos pièces, Thomas Joly, quand on assiste à Henri VI ou Thieste, on a un rapport au son particulier. Mm-hmm. Il y a parfois des musiques qui font penser à des films d'Hollywood. Mm-hmm. Vous amplifiez parfois le son, même mm-hmm. si les acteurs a priori ne jouent pas avec des micros, mais il y a des moments comme ça tendus avec le son. Il y a un rapport à la lumière qui est assez original. Oui. Là, par exemple, Arlequin, mm-hmm. votre premier spectacle, et vous reprenez cette idée dans Fantasio, d'ailleurs à l'opéra, il y a des petites ampoules mm-hmm. qui éclairent le visage de l'acteur et on est en fait très près d'eux oui. grâce à cette simplicité du dispositif et puis cet humour qui court. Oui. Voilà les moyens, entre autres, de Thomas Joly.
Oui, bah, j'essaie d'utiliser tout ce qui est à ma disposition et la première chose qui est à ma disposition, c'est cette boîte noire, vide et silencieuse à partir de laquelle tout peut advenir, absolument tout, et sans me mettre de limites. Les limites, elles viennent après, elles sont techniques, elles sont financières, elles sont le temps, mais a priori, et les matières que je choisis aussi sont des pièces qui invitent à ça. Sénèque, par exemple, démarre sa pièce avec un fantôme qui sort de l'enfer. Bon, c'est rigolo, c'est amusant, c'est intéressant de se creuser les méninges pour faire une sortie de l'enfer, d'un damné, Tantale en l'occurrence. Et puis après, quand on réfléchit aussi à l'histoire du théâtre, le théâtre, parce que je sors pas mal de choses sur le théâtre romain en ce moment, enfin j'ai pas mal étudier ça. En fait, ce qu'on appelle opéra aujourd'hui, c'était du théâtre. Et le théâtre, on peut en faire effectivement, et c'est sûr, avec une ampoule, un acteur, un spectateur et un texte, on peut faire du théâtre et ça peut être magnifique. Mais le théâtre, a priori, à la base, je parle de l'Antiquité, musique, chant, danse, grand décor, grande machinerie. Les Romains n'étaient pas du tout des gens en toge, plantés devant les gens et qui criaient du texte. Il y avait des gros effets scéniques, etc. Donc, plus proche de l'opéra. Bah, j'ai ce goût-là, le goût du spectaculaire, je dois le confesser. J'ai envie que quand on est assis devant une scène que j'entreprends, eh bien, l'oreille soit flattée, l'œil soit flatté, l'âme soit flattée et qu'on on ressorte un peu différent de comment on est rentré, en tout cas en ayant reçu et puis un petit peu, vous voyez, ébloui.
Le théâtre.
Le théâtre, c'est pas pour moi.
Ben non, c'est pas pour toi. Parce que c'est aussi pour moi. Pour ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs. Et si j'avais un marteau, ainsi qu'un burin, je le graverais au fronton de tous les théâtres de France. Que dis-je ? Du monde ! Oui, le théâtre est pour tout le monde.
Ouais, et c'est drôle hein, de le dire encore 70 ans après la politique de décentralisation et de démocratisation qui a été mise en place, mais à un moment donné, il faut aussi pas se mentir. Tant pis à ceux qui diront que je suis un peu démago, mais aujourd'hui, aller au théâtre ne va pas de soi, et ce n'est pas normal. Et ça me met en colère, et ça m'attriste. Parce qu'en fait, en France, il y a à une heure de n'importe qui, en France, un théâtre, ou même plusieurs théâtres. Et que dans ces théâtres, il y a des gens qui prennent des risques, qui programment danse, théâtre, musique, des gens pas forcément connus, mais des choses très bien. Et avec des prix qui sont accessibles à toutes les catégories de personnes, et à toutes les catégories socio-professionnelles, qu'on soit habitué ou non. Il faut le dire et le redire, ça, que le théâtre public est un service public, ça existe en France, c'est un maillage incroyable sur tout le territoire, que les gens ignorent.
Quand quand on est danseuse, chorégraphe et patronne d'un centre chorégraphique, c'est votre cas, Maud Le Pladec, Thomas Joly le disait, il faut aussi prendre les gens par la main. Et comment on fait ?
Effectivement, en tant que directrice d'un centre chorégraphique national, cette question des publics, elle doit être aujourd'hui au centre. Et je rejoins, je pourrais pas dire mieux que ce que a dit Thomas. C'est-à-dire que il y a pas d'évidence aujourd'hui. Pousser les portes d'un théâtre, c'est pas donné à tout le monde. Ou en tout cas, non. Finalement, c'est donné à tout le monde, mais je pense que personne, enfin, tout le monde ne se l'autorise pas. Moi, je sais que j'essaie de développer un projet qui pousse les portes de ce théâtre, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'amène la danse chez les habitants, sur les places publiques. J'essaie de faire rencontrer en fait la grande diversité des arts qui est présente ici en France, en invitant aussi d'autres artistes et en demandant à ces artistes d'aller à la rencontre des gens plutôt que de demander aux gens de venir dans les théâtres. Voilà.
Il y a en ce moment autour d'Orléans, si je peux me permettre, Maud, une bulle.
Voilà, c'est ça, effectivement. C'est un architecte qui a pensé une bulle, un architecte qui s'appelle François Delégret, qui dans les années 70 a pensé un projet utopique d'habitat, c'est-à-dire une sorte d'habitat avec des murs transparents, mais sous la forme d'une bulle. Et nous, on a décidé de remonter cette bulle, de la construire et de la mettre sur les places, dans les forêts, sur les places publiques, en fait, de la faire. En fait, c'est une bulle itinérante dans laquelle on va demander aux gens de venir danser, de venir rencontrer des artistes, de voir des performances. Et finalement, c'est une sorte de centre chorégraphique déplacé, au mur transparent, et où la gratuité, en fait, tout est gratuit, qui permet effectivement de diffuser, en fait, un maximum de choses le plus facilement, enfin, de manière la plus facile.
Je voudrais que vous nous parliez de la chorégraphe Maud Le Pladec. Oui. Elle a travaillé avec vous à l'Opéra, au Palais Garnier, dans Elio Gabal, de Cavalli, mais vous avez vu aussi ses ballets. Oui. Ça ressemble à quoi, la danse de Maud Le Pladec ?
La danse de Maud Le Pladec, c'est une danse ultra généreuse, très collective. En fait, en gros, Maud Le Pladec, elle vous fait danser en étant assis. C'est complètement assez dingue, ça. Moi, j'ai rencontré Maud Le Pladec, elle était danseuse. Donc, je la connais d'abord en tant qu'interprète dans un spectacle qui s'appelait, et ça veut tout dire, Love, chorégraphié par Loïc Touzé, à Rennes, il y a bien longtemps.
Est-ce que vous avez été, j'allais dire, soliste, comme on disait tout à l'heure, avec Marianne Crébassa?
Mais elle l'est toujours.
Je danse encore. Oui.
Vous dansez toujours?
Toujours.
Mais
oui.
vous faites aussi danser les autres et vous dansez avec eux.
Oui, exactement. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis chorégraphe, directrice et encore interprète aujourd'hui.
Et tout de suite, en tant qu'interprète, c'est elle que j'ai repérée dans... Ils étaient plusieurs, vous étiez quoi, 5, 6?
Oui, on était 6.
Je tombais amoureux d'elle, en fait.
Qu'est-ce qu'elle avait de plus qu'une autre?
Eh ben, je pense que c'est cette communication. Moi, dans mon corps, ça réagit immédiatement. Mais je suis pas le seul, parce que j'ai fait venir Maud Le Pladec dans un club, le Salaud. C'était un club éphémère qui invitait comme ça des artistes. J'avais invité Raphaël Lanader aussi, également. Et Maud Le Pladec, je l'avais invité à faire une carte blanche dans ce club. Parce que j'aime bien les choses un peu hybrides aussi, et sortir des théâtres pour faire autrement, etc. Et Maud Le Pladec dansait seule au centre d'un cercle de spectateurs, mais vraiment d'une seconde à l'autre, 200 personnes se sont mises à danser. Moi, j'ai jamais vu ça. J'étais stupéfait de voir comment elle arrive à, en fait, faire danser les corps de ceux qui la regardent et qui reçoivent sa danse. Ultra énergique, ultra vivante, très inspirée aussi. On en parlait tout à l'heure de la déhiérarchisation des cultures. Elle peut faire danser sur de l'électro, mais de la pop aussi. Musique contemporaine, live ou pas. Bon, c'est tout ça que j'aime beaucoup chez Maud Le Pladec.
Eh bien, on continue de parler de cette communauté et de ces mélanges aussi des arts qu'affectionne Thomas Joly dans un instant, après avoir écouté Depardieu quand il chante Barbara.
Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape et tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Il y a un arbre, puis j'envole dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournaient nos rondes folles, puis j'envole, vole, vole, vole. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole. Tiens, voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Et un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand. Et loin du temps de l'école, je suis parti, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Il y a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement. qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand.
Qu'est-ce que vous me dites, proche? Ah, le micro marche pas, vous. Qu'est-ce que vous avez des problèmes? Ben, dites-les-moi. Qu'est-ce que vous avez? On va les résoudre. Vous avez pas de son? Ah, il a pas de son. Ah, ben, c'est vrai, ça s'arrangerait bien. La technique, je vais vous aider.
Voilà la voix de Barbara qui vous fait rire, Thomas Joly.
Mais elle est incroyable. Elle est d'une drôlerie infinie. En fait, c'est du bon sens. Et à chaque fois qu'elle est drôle, moi je pense que c'est quand elle est confrontée à quelque chose qui lui échappe de son bon sens, et elle remet tout le monde dans le bon sens. Et c'est ça qui me fait rire, ouais.
Raphaël Lanader, elle, faut vous appeler Raphaël ou elle là aujourd'hui?
Vous m'appelez comme vous voulez.
Quand vous démarrez dans la chanson, on vous dit « Oh, mais vous nous faites penser à Barbara ».
Absolument.
Et à l'époque, ça vous agace un peu?
Oh, ça m'a pas agacé tout de suite, parce qu'il faut bien dire que je l'aime très fort, et qu'au début, ça m'a beaucoup flatté même. Mais au bout de 2 ans, qu'on me le disait toutes les semaines, j'ai eu envie qu'on me raconte autre chose de moi, mais je l'aime très fort.
Qu'est-ce qu'on vous disait précisément? La voix, les gestes?
Globalement, que peut-être j'étais la nouvelle Barbara, et ça c'est compliqué aussi à porter. Après tout, moi je fais mes chansons et j'essaye pas d'être le double de quelqu'un, même si je l'aime très fort.
Vous avez fait votre chemin, vous avez enregistré des disques, vous avez fait de la scène, vous avez écrit des chansons, composé de la musique pour ces chansons, et vous êtes revenu à Barbara, puisque Thomas Joly vous met en scène dans un spectacle consacré à Barbara. Comment c'est venu ça, Thomas Joly, cette collaboration?
C'est venu de Raphaël, surtout.
Racontez-nous.
Qui avait besoin d'exorciser certainement quelque chose.
Absolument. En fait, donc il y a eu cette année des 20 ans, de sa mort,
oui, de Barbara.
Et tout le monde évidemment a souhaité faire un spectacle pour lui rendre hommage, et en fait moi ça m'a presque agacée.
Vous êtes souvent agacée?
Non, pas toujours, mais ça m'arrive, et notamment quand on touche à certaines idoles que j'ai, comme elle, et donc je me suis dit, oh merde, quand même faudrait peut-être faire quelque chose aussi. Enfin, moi j'avais des choses à raconter sur elle ou de mon rapport à elle, etc. Et comme on s'était rencontré avec Thomas, d'ailleurs, à votre émission.
Ah oui,
merci Vincent.
Années, absolument. Je l'ai appelé. On s'était dit déjà qu'on peut-être on aimerait travailler ensemble, mais on savait pas encore très bien sur quoi. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, tiens, j'ai ça en tête. Est-ce que ça te botterait?
Alors, qu'est-ce qu'elle vous a présenté, Raphaël Lanader?
Et là, elle m'a présenté son rapport avec Barbara, qui est un rapport, effectivement, d'adoration, détestation, tuer la mère, se tuer soi-même. Enfin, voilà, une vraie passion, dans le sens riche, quoi, du terme. Et on a mis tout ça à plat. On a beaucoup parlé. Elle a aussi reçu beaucoup ri, oui, ça c'est sûr. C'est vrai. Beaucoup écouté Barbara. Ouais. Elle a reçu le prix Barbara aussi il y a quelques années, en
tout
2011.
Ouais.
Des mains de Gérard Depardieu, vous voyez comme ça, voilà. et du coup, on a décidé de créer ce spectacle avec Babix, Raphaël et moi. Autour de Barbara, en reprenant des interviews, moi j'ai enregistré Raphaël, que j'ai retranscrit, en reprenant des chansons à la fois de Raphaël, mais aussi de Barbara, des chansons parlées, des chansons chantées. On a travaillé 5-6 jours à Vannes l'année dernière, on a écrit cet objet qui s'appelle Un jardin de silence, c'est une expression de Barbara, ça, elle se fait un petit jardin de silence en scène, et qui sera repris cette année. Moi, par exemple, j'ai le grand plaisir de jouer Frédéric Mitterrand,
Bonsoir.
Qui remet le prix Barbara à
qu'est-ce que ça donne
Raphaël. En gros, la voix, c'est par là, quoi, une chose comme ça. Bon. Mais voilà, j'ouvre le spectacle en faisant Frédéric Mitterrand.
Qu'est-ce que vous avez découvert de Barbara grâce à Raphaël?
J'ai découvert une femme très simple, finalement. Une femme très drôle, je le disais. Et une femme qui n'est pas du tout encombrée comme on pourrait croire. Elle dit, mais toutes vos questions, moi je fais mes petits zinzins, et puis c'est comme ça. Et en fait, ça m'a fait du bien, parce que ça tombait au moment, on en parlait tout à l'heure, du succès, des médias, de cette espèce d'ultra-visibilité, de surexposition de mon travail. Et en fait, d'un coup, d'aller à Vannes avec Raphaël. Souviens-toi le train dans lequel on était en prenant le TGV pour Vannes. Et puis d'entendre Barbara, d'écouter Barbara, de voir l'immense femme qu'elle est. Et là, l'espèce de simplicité avec laquelle elle prend les choses. Là, elle engueule les techniciens, bon, voilà, en disant, mais bon, on s'en fiche, ça marche, mais j'entends pas, voilà. Et les petits zinzins, moi, je me souviens de ça. Vous me posez des questions, tout le monde se dit, mais est-ce que Barbara, ceci? Moi, je fais mes petits zinzins, et voilà, et j'adore ça.
Raphaël Lanader, quand vous écrivez des chansons, vous parlez souvent de votre expérience, de vos sensations, de vos tristesses, de votre nostalgie, de ce que vous vivez, mais quand vous chantez Barbara, vous avez l'impression de parler de vous aussi?
Ah oui, je pense que de toute façon, ces chansons, et c'est ça qu'elles ont d'extraordinaire, sont complètement universelles. Et d'ailleurs, je crois que dans le spectacle aussi, on parle de ça. Finalement, ce qui était fou avec Barbara, c'est que les gens venaient la voir et lui disaient « Ah non, mais Nantes, là, votre chanson, c'est mon histoire. Moi aussi, j'ai un père qui est mort à machin. » Et en fait, c'est ça qu'elle a de dingue, c'est qu'en touchant à une chose qui, chez elle, est des plus intimes, elle va chercher cette intimité-là, cette précision des sentiments chez chacun d'entre nous. Et je crois que c'est ça qui est extraordinaire et que c'est pour ça qu'on l'aime encore.
Et si je peux me permettre, Raphaël a le même talent. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas, dans les chansons de Raphaël, ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que je pense aussi... Non, mais j'aime bien me dire ça, que les chanteuses, a priori, parce que si on regarde les... Si tout est vrai dans les chansons de Barbara... Non.
On a le droit de mentir.
Bonjour,
quand on
les VDM.
Mais Dieu merci, non, voilà. C'est des fictions.
Voilà. Mais c'est comme au théâtre, d'ailleurs. Ça a l'air de lui être arrivé, et surtout, j'ai l'impression que ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que moi aussi, mon papa est vivant, et Nantes n'a rien à voir avec mon papa. Enfin, voilà. Mais moi aussi, j'ai l'impression que j'ai perdu mon père à Nantes.
Oui,
moi aussi,
absolument.
Je vois le long couloir.
Maud Le Pladec, chorégraphe, je le rappelle, et danseuse, ça vous fait cet effet-là aussi, Barbara?
Ah oui, complètement. C'est quand même quelque chose de pouvoir parler de son intimité et à l'intérieur de ça, d'aller toucher ce qui est du tout à chacun. C'est vraiment un grand talent.
Mais avec
talent.
Son corps aussi, on peut se raconter et toucher l'autre.
Moi, j'ai essayé de faire une pièce comme ça. Enfin, j'ai fait une pièce qui s'intitule Motocross, qui parle de mon père, qui parle de la disparition de mon père, qui parle de mon époque, et j'ai relié l'intime au politique, j'ai relié l'intime au culturel, j'ai relié... Parce qu'effectivement, tu parles de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans ça, et finalement, on se rend compte que le récit de soi touche beaucoup plus à la fiction qu'à la réalité, c'est-à-dire comment on se raconte finalement. Moi, quand je raconte ce qui s'est passé hier, par exemple, je dis, ah ben voilà, j'ai fait ça, mais en fait, c'est pas tout à fait la réalité, c'est la façon dont je le raconte, c'est ce que j'en garde. En fait, ce ne sont que des constructions imaginaires, des constructions mentales. Et c'est ça l'intimité aussi. C'est ça qu'on partage avec les autres. C'est ça qu'on partage avec les gens.
Comment
qu'on aime.
On fait pour raconter son père, qui était DJ d'ailleurs en Bretagne, hein.
Alors, DJ est un bien grand mot. Il avait une disco mobile. C'est pas tout à fait pareil. Mais effectivement, pour moi, c'était un grand DJ. Voilà. Comment on fait pour le raconter?
Oui.
Bah, on le raconte avec des mots. Déjà, c'est ce que j'ai voulu faire.
Il y avait des
donc,
mots.
Donc, voilà, c'est une danseuse qui parle. Ça, c'est tout à fait commun. En fait, ça serait bien que ça le soit plus.
Il y a du récit, alors.
Il y a du récit, c'est un vrai récit.
Et comment le corps prend le relais?
C'est des articulations, c'est comme des vases communicants. C'est-à-dire que, vous savez, quand je vous parle, je bouge. Donc, je bouge et je parle et je bouge, puis je ne parle plus, et je parle et je ne bouge plus. Voilà, c'est assez naturel, finalement, hein, ce glissement d'un registre à un autre. Après, ce qui a quand même été la colonne vertébrale, enfin les deux colonnes vertébrales, il y a trois colonnes vertébrales, mais quand même les deux principales, c'est un texte que j'ai écrit, co-écrit, enfin une partie a été écrite avec un metteur en scène et auteur qui s'appelle Vincent Thomassé. Je ne connaissais pas Thomas à l'époque, sinon j'aurais demandé à Thomas, probablement. Et cela dit, la collaboration avec Vincent était magnifique, donc il n'y a pas de regret. Et donc j'ai aussi écrit, moi j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit un texte sur ma vie et sur la vie, on va dire ça comme ça. Et la deuxième colonne vertébrale, en fait le deuxième grand fil rouge, c'est la musique. Donc j'ai articulé musique, danse et paroles.
Maud Le Pladec, je vais vous remercier parce qu'il paraît faut que vous partiez vite. Vous arrivez de New York, vous repartez
mais
je ne sais où.
Mais je pars à Orléans.
Pendant que vous partez en saut de chat, la caricature, le cliché. On écoute, si vous le voulez bien, Raphaël Lanader quand elle chante La Meuse.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Entends-tu dans ma voix cet accent où se creusent les houes? Je dis oui, c'est la Meuse qui charrie malgré moi ses chagrins d'avant toi, d'avant nous. Dans ma voix, c'est la Meuse qui cause malgré tout le matin, pas toi. Oh les matins, surtout. Et si parfois ce parfum, sans prévenir, revient, j'y peux rien. J'y peux rien, mon teint pâle, c'est la Meuse, mes grands yeux bleus de pluie, je dis oui. J'y peux rien, c'est la Meuse. Vois-tu à mon teint pâle les stigmates de saison rigoureuse, où la pluie langoureuse s'invite toujours au bal et se hâte de couvrir de brume les pierres malheureuses sans même penser à mal. Mon teint pâle, mes yeux bleus sont un voile de brume. Et si parfois ce parfum, sans prévenir, revient, j'y peux rien. J'y peux rien, mon teint pâle, c'est la Meuse, mes grands yeux bleus de pluie, je dis oui. J'y peux rien, c'est la Meuse. Parfois, ce parfum, sans prévenir, revient, j'y peux rien. J'y peux rien, mon teint pâle, c'est la Meuse, mes grands yeux bleus de pluie, je dis oui. J'y peux rien, c'est la Meuse. C'est la Meuse. C'est la Meuse.
Je suis un petit peu fan, moi, de La Meuse de Raphaël Lanadère. Est-ce que c'est votre cas aussi, Thomas?
Bah, évidemment, évidemment.
Pourquoi, d'ailleurs, on est fan de ce morceau?
Parce que, voilà, j'habite en Meuse, moi, du coup.
C'est vrai?
Voilà, voilà,
ah c'est, oui, quand vous écoutez ça?
Je viens de La Meuse.
Donc, votre père est mort à Nantes.
Voilà, et j'habite dans La Meuse.
Vous voyez qu'il y a une universalité aussi de vos chansons, mademoiselle Lanadère.
D'accord, merci.
On peut parler d'un disque autobiographique, le disque chanson, qui est votre troisième disque?
Je ne crois pas qu'il soit plus autobiographique que les deux précédents.
Ouais, dès qu'on écrit, c'est un peu autobiographique.
Oui, absolument. Et à la fois pas du tout.
La Meuse, c'est un souvenir.
Comme disait Thomas.
C'est un souvenir d'enfance ou de l'enfance de votre mère?
Ah, de mon enfance aussi à moi, puisque j'y allais à chaque vacances. Chez ma grand-mère, à Montmédy. Donc c'est un tout petit bled.
Et ça vous est revenu comme ça devant la page blanche?
Ça me revient en permanence.
Mais jusqu'au moment où l'obsession est telle qu'il faut écrire?
Oui, il y a quelque chose qui manque en fait de tout ça. J'étais très fan de ma grand-mère, je crois. Ça fait 20 ans qu'elle est morte, hein, mais. Je pense très souvent à elle et il y a quelque chose de moi, j'imagine, que j'aime retrouver quand je pense à elle.
Est-ce que c'était elle aussi qui te faisait chanter, petite, ce que tu m'as raconté dans les repas de famille?
Je chantais là-bas, bien sûr.
Ouais.
Je chantais en permanence là-bas.
Vous avez vu, c'est rigolo parce que toutes les artistes ce qu'on a reçues ici, en fait, elles sont toutes montées sur la table, elles sont toutes pour faire du théâtre, du chant, du piano, et toutes les familles ont hissé ces enfants artistiquement. C'est assez joli, j'avais pas fait exprès, et toutes les trois, vous avez raconté ça cet après-midi.
Bonjour Eddy de Pretto.
Bonjour.
Comment
Bonjour.
Allez-vous?
Ça va, merci vous.
Très bien, merci. On est heureux de vous accueillir, monsieur l'auteur, compositeur, interprète également. Hein. Thomas Joly ne vous connaît pas physiquement, personnellement,
non.
Mais vous êtes dans ses oreilles, si je puis dire.
Oui, bonjour Eddy.
Bonjour.
Bonjour. Quand Vincent Josse est dans cette émission m'a proposé d'inviter des gens, il m'a dit voilà, des gens que vous connaissez ou des gens que vous avez envie de rencontrer ou de découvrir. Alors je vous découvre pas parce que je vous écoute et j'avais juste une chose à vous dire très importante, c'est que j'aurais aimé moi adolescent avoir un Eddy de Pretto. à écouter. Parce que ce que vous dites dans vos chansons, la façon dont vous le dites, bon, la voix est sublime. Vous êtes aussi un très grand interprète, même quand vous reprenez Barbara aussi. Ici même sur France Inter, vous avez fait ça. Et on parle beaucoup de Barbara depuis quelques instants.
Il a une articulation irréprochable.
Une chaleur dans la voix et un souffle. Enfin, c'est très, très, très beau. Mais ce que vous dites, ce que vous racontez, la singularité de vos textes, de qui vous êtes. Encore une fois, je ne vous demanderai pas si tout ça est vrai ou faux, parce qu'on parle de la fiction dans nos chansons, etc. Mais je trouve que vous êtes plus qu'un chanteur, vous êtes un peu un symbole. Voilà, je le dis carrément comme ça. Voilà, j'avais envie de vous le dire.
Eh bien, merci beaucoup. Je suis très gêné.
Thomas Joly, qu'est-ce qu'elles racontent, les chansons d'Eddie de Pretto? Vous dites, ce que vous racontez est important pour moi.
Bah, c'est important parce que tout à coup, il pose des questions de l'ordre du féminin, du masculin, de l'adaptation à un contexte culturel ou social qui, moi, au moment de mon adolescence, a été très, pas très compliqué, mais de vraies grandes questions.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la question du genre.
Mais exactement, voilà. Et il la pose. C'est pour ça que je pense que c'est un symbole. C'est-à-dire que Eddie de Pretto arrive au bon moment, au bon endroit, et c'est rassurant parce que ça veut dire que l'art et la société avancent dans le bon sens. Voilà ce que ça veut dire Eddie de Pretto aussi pour moi.
Est-ce qu'on peut dire que vos chansons portent sur l'identité, entre autres, dans notre société, Eddie de Pretto?
Oui, c'est le questionnement, c'est la recherche, c'est être toujours en interrogation perpétuelle comme ça et se jouer un peu de tout. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré avoir plusieurs groupes d'amis, j'ai adoré mettre des masques quand il fallait pour m'adapter totalement à des milieux sociaux et jouer le jeu le plus totalement possible. Et puis après, me mettre un certain recul pour tenter de l'analyser, l'écrire, comment moi je me ressentais là-dedans. Comment moi je me sentais vis-à-vis de mes amis filles, de mes amis garçons, de mes parents. Enfin, c'est toujours se poser la question, où est-ce que je me situe, comment je me situe, et est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que ça va évoluer? Je crois que ça va évoluer parce que la suite arrivera, j'espère.
Elle arrive forcément, et ce qu'on se raconte de cet après-midi avec les artistes autour de cette table, c'est ça, c'est le rapport de son enfance et de comment est-ce que l'intimité participe à la création et... Comment est-ce qu'on ajoute un peu de fiction dans le réel? Est-ce que vous aussi, Eddie, je vous vois, hein, parce que je suis un peu impressionné. Donc je vous vois. Est-ce que quand vous étiez jeune aussi, on vous faisait monter sur une table pour chanter ou pour danser ou pour faire l'artiste?
C'est moi qui y allais tout seul. Voilà. Je prenais la télécommande et je l'utilisais en micro et je me mettais devant ma mère et je faisais le spectacle. Et c'était comme un rendez-vous assez sacré pour moi. C'est-à-dire que j'avais le trac, j'avais ma voisine Charlotte avec qui on montait les choses et pour qui c'était très très important et c'était des rendez-vous assez sacrés et après c'était ma famille qui me demandait de chanter et ça par contre quand on me demandait de faire les choses je détestais ça.
Comment réagissaient vos parents quand vous preniez un micro et que vous chantiez?
Ma mère était très contente.
Bah oui, heureusement.
De l'animation, elle était voilà et parfois elle était un peu distraite donc je lui disais tu te tais, tu m'écoutes. Voilà.
Vous vouliez déjà de la lumière?
Oui. J'en ai un peu toujours voulu, oui.
C'est intéressant ce que vous dites dans vos chansons et ce que vous dites là cet après-midi sur France Inter parce qu'on a l'impression que vous vivez vraiment et que vous êtes vraiment vous depuis que vous écrivez des chansons. Avant, vous êtes un peu un petit caïd de banlieue, si j'ai bien compris. Vous, avec vos copains, vous jouez à
chaque fois. Je fais genre d'être le caïd de banlieue.
Oui, c'est ça, vous faites genre. C'est intéressant comme mot d'ailleurs. Et à partir du moment où vous écrivez, on a l'impression que là, vous retirez tous vos masques et que vous pouvez dire, oui, je suis homosexuel, mais c'est pas un problème ni un sujet en soi. Oui, j'ai vécu des choses pas toujours simples. Tout devient limpide depuis que vous êtes chanteur.
Oui, parce que je parlais tout à l'heure de questionnement et de, je pense que c'est des cheminements qui se sont faits pendant ces années-là, où peut-être que j'avais une certaine frustration, une certaine envie de tout éclater, et j'attendais comme le moment fou de pouvoir me dire, t'inquiète Eddie, ça va arriver, tu vas pouvoir t'assumer totalement, être qui tu es totalement, et donc cette frustration, je pense que ça a été une grosse nourriture, ouais, pour justement faire ce premier album. Et je me rappelle, je regardais souvent par la fenêtre de ma chambre où je voyais le faisceau de la Tour Eiffel qui circulait de Créteil. Et je me disais à chaque fois, putain, mais tu vas y arriver et tout. Et même si aujourd'hui tu te sens dans un certain enfermement, dans un certain conditionnement de quelque chose, à faire les choses, à faire genre, à devoir mettre ce masque-là, un jour, promis, tu pourras y arriver à être qui tu es. Et oui, oui, aujourd'hui, c'est en tout cas, je ressens cet apaisement-là. Ouais, de pouvoir être et dire ce que je suis, ouais.
En fait, j'ai la sensation de ce dont parle Eddie De Pretto, c'est de ce dont on parlait, c'est-à-dire le courage de l'honnêteté de soi. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens chez lui. Ce que je ressens chez Raphaël Anader, chez Maud Le Pladec, chez Marianne Crébassa, Annie Mercier, les gens qui m'entourent et que j'admire, et qui sont pour moi les grands artistes, sont ceux qui ont le courage de l'honnêteté de soi. Je le redis parce que, à mon avis, c'est la plus grande qualité de l'artiste, mais c'est aussi la plus grande qualité du bonheur, tout simplement. Et que, quand on trouve ça, on devient invincible. Moi,
j'avais eu
ça.
Le sentiment, vous, Raphaël, de trouver ça, justement, Cette vérité qui apparaît dès lors qu'on assume sa condition d'artiste et qu'on devient artiste.
Oui, je crois que c'est un sentiment que j'ai depuis assez longtemps, à la vérité. La seule chose, c'est que peut-être que c'était intérieur et que je ne l'exprimais pas forcément. Après, c'est devenu... J'ai pu le partager. Peut-être, grâce
mais
aux chansons.
Quand on travaille avec Raphaël, par exemple, et qu'elle s'expose, parce que les chanteuses, elle a un micro, elle vient devant, dans le spectacle qu'on a travaillé ensemble, il y a ce courage de l'honnêteté de soi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'un artiste, qu'il soit acteur, chanteur, chorégraphe, danseur, vient devant nous autres, le reste des vivants, la masse du public, avec ce courage-là. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens dans ce que dit Eddie, dans ce qu'il chante, je le ressens dans ce que chante Raphaël dans La Meuse, par exemple, ou son dernier album, mais pas que le dernier album. Ce sont des humanités qui s'offrent, enfin, qui se donnent au reste du monde.
Eddie De Pretto, vous dites même que le succès qui vous est tombé dessus, parce qu'il est phénoménal et assez fracassant, un peu comme celui qu'a connu il y a quelques années à Avignon Thomas Joly, ce succès, ça vous a fait peur, c'est un peu brutal, et il y a une chanson de vous qui s'appelle Ego, qui est très intéressante là-dessus, c'est même presque trop violent, non?
Ça va.
Moi, j'avais perçu cette chanson comme une sorte d'aveu.
Oui, justement, non mais c'est toujours...
Trop d'un coup, quoi.
Non, c'est faire attention. Cette chanson, elle me prévient plutôt que de me dire plus... Parce que je l'ai écrit même avant cette vague, quand ça commençait peut-être un peu à susciter un peu le mouvement autour de moi. J'ai écrit cette chanson, mais plutôt par mise en garde un peu, de dire, oh là là, calme-toi, reste droit et reste assez... simple, humble et te faire pas dans ces choses-là. Et c'était plutôt pour me mettre ça en place et dans la tête que j'ai écrit cette chanson.
Vous êtes costaud parce que vous n'avez pas été préparé au succès.
Mais non, il n'y a pas d'école à ça. Il n'y a pas d'école, mais non, mais je crois que ça me plaît. Je l'ai beaucoup rêvé, je l'ai beaucoup fantasmé, moi, le fait de monter sur scène tous les jours, d'être regardé, de faire l'intéressant. J'adorais ça, j'adorais être vu, j'adorais faire le clown. Enfin voilà, j'ai toujours aimé me mettre en spectacle, donc vivre ça tous les jours et avoir du monde qui vient me voir et être curieux et me. Enfin, c'est génial et c'est une chance de pouvoir vivre ça aujourd'hui et j'en profite pour le moment.
Thomas Joly.
C'est bien parce que c'est partagé. Enfin, ouais, il a raison. Il n'y a pas d'école pour le succès. En tout cas, le succès n'est pas moins de travail. Ça, on en a parlé aussi tout à l'heure. Et c'est une façon, en fait, où tout à coup, tout se crée tout seul dans sa chambre. Moi, par exemple, c'était mon cas. Enfin, pas dans ma chambre parce que je ne faisais pas du théâtre dans ma chambre. Enfin, si au tout début, mais les premiers spectacles étaient dans des théâtres de manière moins visible. Et tout à coup, voilà, la presse, les médias, le public, tout le monde vient mettre des mots sur son travail. C'est pour ça que j'essaie d'être délicat, là, avec ce que je dis à Eddie De Pretto parce que je voudrais pas instrumentaliser ce qu'il est ou ce qu'il veut être, mais voilà, je dis sincèrement que pour moi c'est plus qu'un chanteur, c'est presque un symbole du moment, enfin, d'important pour le pays qui avance, mais ce que je veux dire c'est que c'est partagé, je pense que ce qui est en train de se passer pour Eddie De Pretto et pour son public, dont je fais partie, c'est une aventure collective, et ça c'est très très heureux et très enthousiasmant.
Eddie De Pretto, on a envie de vous écouter chanter aussi, vous voulez bien ?
Non, je ne sais pas faire ça.
C'est pas ce que je voulais vous demander, je voulais juste qu'on écoute votre disque.
Ah bah écoutons.
Au revoir Eddie, j'ai pas osé dire bonjour au début, mais alors du coup je te dis au revoir, hein, salut.
Salut Raphaël.
Allez, on écoute Random, Eddie De Pretto.
Au revoir.
Merci Eddie.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évante d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens,
Je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dom, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dom, chaque fois que je tombe croque. Love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Souvent je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Pour oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fade sans saveur. Souvent je mens pour frétiller en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh, j'ai le cœur en dom, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dom, chaque fois que je tombe croque. Love, j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. Car il me manque cette audace, des prises de position classe avec des je t'aime efficaces, sans les jeux de baise à la ramasse. Il me manque ce petit tac de sursoir pour que ça marche. En attendant, je mets les races, puis je crois en tout ce qui se passe. Faut que j'ai pas compris les bases, pour qu'autant je galère au max. Mais comme Jacques disait des dames, c'est ton pire ennemi qui est en face. Du coup, je fais comme d'hab, je me cache et je m'invente des cœurs qui frappent en criant des idoles en masse, tout en les épiant sous mon masque. J'ai le cœur en dom, tu crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens. J'ai le cœur en dom, chaque fois que je tombe croque. Love, j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne. Comme si j'ai pas la cote, comme ça je me mens.
Je peux vous dire qu'ici en studio, ça chantait, ça
chante, ça danse. Non, mais c'est trop bien.
On pourrait chanter tous les trois le refrain. J'ai le cœur.
Ah oui, on peut, ouais.
On peut le tenter. Mais Vincent, vous chantez avec nous.
Oui, je vous regarde un peu, je vous écoute. Mais allez, c'est parti. 3, 4.
J'ai le cœur en dom, je crois en tout ce qui cogne. Cogne. J'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent. Fait que si j'ai pas la cote, comme ça, je me mens. J'ai le cœur en dom.
C'est ma phrase préférée. Chaque fois que je tombe croque, love.
J'ai pas.
Trop bien, ça.
Ouais, voilà, bon, bref. Ouais, mais c'est trop beau, de toute façon.
Vous ferez pas ça dans Marmara, vous chantez Marmara, on est bien d'accord, hein.
Mais on pourrait faire ça, on s'en fout, en fait.
Un Eddie de Préto, en
plein milieu. Pourquoi? Enfin, je veux dire, ce qui est rigolo dans Barbara, c'est que c'est pas un hommage à Barbara exactement.
Non. Ni un biopic.
Non. Et donc, on chante ce qu'on veut, finalement.
Oui, parce
on raconte
qu'on a aussi du Léo Ferré.
Il y a aussi du Gainsbourg.
Mm-hmm.
Donc, on fait ce qu'on veut.
On pourrait mettre un Eddie de Préto.
Tout à fait. Mmh.
Je vous ai donné une idée.
Mais peut-être bien. Mais
je vais changer de métier.
Déjà que Vincent, vous nous avez fait nous rencontrer.
Je suis assez content, moi, de faire des mariages comme ça grâce à la radio.
Clairement, oui. Mmh. Oui, il a eu lieu.
C'est un mariage réussi.
Alors, les mariés vont se quitter, les auditeurs vont quitter les mariés. Merci d'être venu dans le grand atelier de Thomas Joly, Raphaël Lalaner. Votre disque, c'est Chansons au pluriel. On a entendu La Meuse dont on est fan avec Thomas Joly. Cet été, vous disiez Thomas Joly, il me reste tant à faire. J'ai tellement d'envie. Mm. Si vous deviez, avant de nous quitter, là, nous donner deux envies.
Écrire, et du cinéma, et de la réalité virtuelle, et une série. Et ça fait plus de deux, mais ouais, j'ai envie de déployer encore la façon de raconter les histoires. Je pense que l'envie première, c'est de raconter des histoires, de rester là-dedans, mais de déployer les moyens de le faire.
Merci d'être venu dans
Merci
Grand Atelier.
Merci Vincent, merci de cette émission et de m'avoir permis d'inviter ces si belles personnes à votre micro. Merci beaucoup. Bonsoir.